Vous écoutez
RMC. RMC, les GG sur le buzzer.
On parle souvent d'eux comme des aventuriers des temps modernes. Que faut-il bien avoir dans la tête pour prendre la route en pleine mer et se lancer à travers le monde, parfois au risque de sa propre vie? Eh bien, on va poser la question à un skipper français, Mathieu Perrot, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Alors, on va allumer le micro. Hop, voilà, c'est parfait.
Bonjour à tous, merci.
Alors, déjà, comment ça va, Mathieu? Tu vas nous parler évidemment de tes péripéties que tu as vécues avec ton co-skipper lors de la Transat Café L'Or. Comment ça va aujourd'hui?
Comme vous tous, je sors d'une petite grippe, donc je suis un peu fatigué, mais non, ça va très bien.
Et t'as pas le mal de mer, de mal de terre quand t'es sur la terre?
Non.
Non.
Non,
puis t'as pas le mal de mer. C'est une exposition complètement. Et le mal de mer.
Ça arrive, hein. Les skippers ont la mal de mer parfois.
Ouais, il y a plein de skippers qui ont le mal de mer, ouais.
Ah, c'est drôle.
En l'occurrence, moi, ça m'arrive pas. J'ai de la chance.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Mais c'est drôle, je sais pas si c'est drôle.
En général, t'as le mal de terre quand t'as passé pas mal de temps en mer.
Mm-hmm. Et ça disparaît au bout d'un moment.
Ça a pas duré très longtemps, malheureusement.
Voilà, il faut que tu nous racontes alors cette mésaventure que tu as vécue et que tu racontes dans un court métrage qui est disponible d'ailleurs sur YouTube intitulé Le jour où tout a basculé. Je vous invite à aller le regarder parce que les images sont impressionnantes aussi. Où vous racontez avec votre co-skipper Jean-Baptiste Gelé le moment justement où le bateau a chaviré lors de la dernière Transat Café L'Or. Que s'est-il passé à ce moment-là?
Déjà la Transat Café L'Or, nous c'est notre objectif annuel, c'est un peu le gros match de l'année. Et c'est donc une transatlantique entre le Havre et les Antilles. On se prépare toute l'année pour ça, c'est un truc que tu veux accrocher à ton palmarès de sportif. Voilà, pour une fois on était super bien prêts, même favoris, donc c'était un beau départ. On a fait un beau départ. On est parti sur les chapeaux de roue, dans beaucoup de vent, et on avait fait décaler le départ avec l'organisation de course pour partir dans des conditions plus maniables. On n'a pas vraiment prouvé le.
Vous êtes parti avant, c'est ça? Vous êtes
parti 24 heures
avant.
Ouais, et en fait, effectivement, le vent était moins fort, les vagues étaient moins fortes, mais il y avait beaucoup d'instabilité, et c'est ce qui est très dur pour nous à contrôler. Et voilà, donc on en a passé une nuit dans 30-35 nœuds de vent, c'est à peu près le double en kilomètre heure. Donc beaucoup de vent, mais rien d'insurmontable pour nous. Et à voir beaucoup de nuages, beaucoup de grains sur nos radars, sur nos infos. Et en fin de nuit, on commençait à se détendre un peu, le vent était un peu moins fort. Et voilà, et là on était surpris par une rafale de vent.
5h du mat, boum, d'un seul coup, la vie bascule quoi. La course bascule en tout cas.
Ça s'est passé en combien de temps? En quelques secondes, quelques minutes?
Je pense qu'en tout et pour tout, peut-être en 8 secondes le bateau est à l'envers.
Oh bateau complètement à l'envers.
Percute, etc. En 4 secondes.
Donc, faut raconter. Il a basculé vers
l'avant.
Il y a David qui te demande comment il a basculé le bateau.
Le bateau a chaviré par le côté. Ouais, donc, on est un petit peu penché, mais pas trop. Et d'un coup, le vent tourne un petit peu et augmente fortement. Et donc, le bateau, en fait, gite et finit par se renverser.
Et là, tu te trouves à quel endroit à ce moment-là, quand le bateau. Vous êtes sur la coque centrale, parce que c'est un multicoque, on rappelle, faut expliquer pour nos auditeurs.
Exactement. Donc un trimaran qui a 3 coques. Une coque centrale dans laquelle on vit et 2 flotteurs dans laquelle il se passe à peu près rien.
Et donc là, t'es dans la coque centrale, et d'un seul coup, bim boum, badaboum. Exactement. La tête à l'envers.
Mais ça paraît fou parce que c'est quand même hyper stable ce genre de bateau.
En plus, vous étiez relâché un petit peu, comme tu dis, ça allait un petit peu mieux, et d'un seul coup, ça te.
Je dirais pas qu'on était vraiment relâchés, on était moins préoccupés par les conditions. Quoi. Mais c'est des bateaux où t'as les cordages tout le temps dans les mains. On sait que ça peut arriver, c'est le truc qui nous fait peur à tous. On est tout le temps très concentrés sur ce truc-là. Et on était hyper concentrés, on passait à la pointe Bretagne, on était très proche des cailloux. Et le vent rentre, et en quelques secondes, le bateau se retourne. T'as quand même le temps de percuter, tu comprends, donc on se jette dans la coque centrale. Et on se retrouve dans le bateau qui est complètement à l'envers. Là, c'est comme si tu coupes le son, quoi. Il se passe plus rien. Tout est devenu très calme d'un coup. Et tu te regardes dans le blanc des yeux, en mode waouh.
On est quand même content d'être deux, j'imagine aussi à ce moment-là, de pas vivre ce moment-là tout seul.
Et d'être au large de la Bretagne et pas au large de l'Antarctique,
si loin,
peut-être aussi, non? Enfin, je sais pas si.
Mais parce que vous êtes pas si loin des côtes à ce moment-là aussi, c'est ça qu'il faut rappeler.
Paradoxalement, c'est le seul truc qui nous a fait peur, ça.
Ah ouais?
Parce qu'en fait, on était vraiment très proche des cailloux. En fonction de la dérive, en fait, on sait que chavirer, c'est un drame parce que c'est la fin de la course, c'est la fin de l'objectif sportif et ça va coûter des sous à tout le monde. Néanmoins, ce qui chavirait, c'est un truc qui peut arriver à ces bateaux-là. On sait les réparer, on sait gérer ça. Par contre, si on le met dans les cailloux et qu'on n'arrive pas à le ramener à la maison, là, c'est notre actif, vraiment ce qui coûte cher dans ces projets qui disparaît, quoi.
Vas-y, David.
Est-ce que t'as peur de couler?
Non.
Non.
Il n'y a pas de voie d'eau, il n'y a pas de...
À aucun moment, j'ai eu peur pour ma vie, déjà. Et t'as pas peur de couler? L'avantage des trimarans, c'est qu'ils ont trois coques, plus les bras de liaison qui les relient. Il y a quand même beaucoup de compartiments fermés et couler un trimaran, c'est...
En plus, tout s'est passé.
Tu sais pas si tes coques, t'as une coque qui peut, elles peuvent se fissurer.
Peut être endommagé.
C'est carbone, vos bateaux, non? Ou en fibre de verre. Donc, quand tu chavires, tu sais même pas pourquoi t'as chaviré. T'as le truc, il peut y avoir les coques qui se sont fissurées, tu peux prendre la flotte. Enfin, tu peux couler quand même, non? Tu peux pas couler? Jamais?
Bon, à couler, c'est vraiment exceptionnel avec ces bateaux.
C'est un monocoque éventuellement, mais
ouais. Non, les trimarans Ocean 50 sur quelques vingtaines d'années d'existence, aucun bateau n'a été perdu sur un chavirage. À chaque fois, on les ramène à bon port à l'envers. On les remet à l'endroit, on les répare et c'est reparti.
Alors derrière, dans votre malheur, il y a tout qui se passe quand même relativement bien. C'est-à-dire qu'il y a un autre bateau qui est pas très loin, donc qui peut remorquer ton bateau. Vous êtes élitreuillé quoi, moins d'une heure après avoir chaviré, ramené à terre. Dans votre malheur, finalement, derrière, ça se passe plutôt bien et vous réussissez à ramener le bateau à quai à Brest. Vous avez fait les réparations derrière. Derrière ce coup dur, finalement, dans votre malheur, il y a eu des trucs positifs quand même.
Ouais, super positif, honnêtement. On s'appuie sur une équipe avec un terrain best-selling team qui est folle. Et c'est ce qui ressort de cette expérience-là, qui pour nous skipper un échec sportif, mais par contre pour nous entrepreneurs une réussite de dingue parce que sur le quai à Brest, c'était 15 personnes qui nous attendaient et à qui on n'a pas demandé de venir, quoi. Évidemment, tout le monde était là, tout le monde est venu, resté 4 jours. En fait, il s'est passé 4 jours comme ça, de phase où chaque jour, il y avait un grand truc. Tu ramènes le bateau, tu le remets à l'endroit, tu le ramènes à la maison, tu le sors de l'eau pour le mettre dans le hangar. Et il s'est passé toutes ces phases de façon hyper enchaînée. Et là, on a vu la force d'un collectif vraiment exceptionnel, quoi.
Et comment t'as géré la déconvenue sportive? Ça t'a mis combien de jours pour digérer
J'ai l'impression que c'est pas digéré.
C'est pour ça que je pose la question. Je sens que c'est encore un peu à fleur de peau. Ouais. Donc
En fait, pour moi, le truc le plus violent, je pense que ça peut te parler, c'est t'es en train de vivre une finale, quoi. Mm-hmm. T'es hyper concentré, donc il y a pas vraiment de notion de temps, tu vois, dans ta tête. T'es hyper focus et d'un coup, ça s'arrête et tu te retrouves
dans la réalité, quoi.
Mm. Et là, t'as beau, tu vois, on est revenu sur les datas, on est revenu sur le pourquoi, sur comment on pourrait faire pour éviter encore plus ces trucs-là, mais je sais pas de répondre à cette question, franchement.
Mais t'as eu besoin de le raconter dans un court-métrage, quand même, finalement.
Ouais, alors on est.
Est-ce que ça t'aide? Est-ce que t'avais besoin de le raconter ou tu voulais juste faire participer un petit peu tout le monde à cette aventure, entre guillemets?
Bon, il y a plein de visées à ça. D'abord, on est un projet de marketing pour des entreprises. Ça, on est assez lucide là-dessus. C'est des sports qui vivent du sponsoring. Et sans le sponsoring, on fait rien. Donc, on raconte ce qu'on fait. On est des raconteurs d'histoires. On le dit souvent. Cette histoire-là est presque plus intéressante qu'une troisième place, tu vois.
Clairement.
On aurait préféré faire une troisième place.
Ça fascine les gens.
T'aurais terminé la course.
Non, mais ça fascine les gens. Comment est-ce que tu gères?
C'est fascinant, forcément.
Ouais. Et il se trouve que du coup, la partie médiatique fait partie de nos préoccupations. Là, nous, on bosse avec un médiaman qui est la personne qui a réalisé ce court-métrage. Et c'est moi qui le raconte, mais c'est lui qui devrait être là. Hein. C'est l'artiste. Et qui est devenu un pote. Et donc, il se trouve qu'il est dans la maison avec toute l'équipe au Havre au lendemain du départ, enfin la nuit du départ. Et en fait, il est resté avec nous. Il est resté avec l'équipe. Il est venu à Brest. Il a récupéré les images de la marine. Et en fait, on n'a rien demandé à personne. C'est lui qui a tout filmé. Il est resté sur toutes les étapes. Il est même revenu au croisic quand le bateau revenait.
Et est-ce que tu penses que
ces documents, ces images pour nous, elles sont hyper importantes.
Est-ce que tu penses qu'il y aura de l'appréhension sur ta prochaine course vis-à-vis de ce qui vient de vous arriver? Ça va rester dans un coin de ton esprit ou tu vas te dire tu vas complètement passer à autre chose et partir sur des nouvelles bases et...
Honnêtement, c'est la question numéro une qui reste. Il y a deux trucs. Je suis déçu d'avoir raté cet entraînement. Parce que le gros truc qui arrive, c'est la route du Rhum. C'est la même chose, mais en solitaire. Donc, seul sur le bateau. Donc, on a déjà montré, parce que là, il y en a quand même trois quand je chavirais la même nuit, que ces bateaux-là étaient chauds. Là, on va refaire ça en solitaire. Donc, ça, c'est un bon step au-dessus en termes d'engagement.
Parce que il y a, moi, j'ai connu un marin qui avait chaviré par l'avant avec un.
Par l'avant.
Il paraît que c'est hyper impressionnant que tu te vois mourir, t'es catapulté, etc. Et il m'avait expliqué qu'il voulait plus remonter sur le bateau, sur ce type de bateau-là, en tout cas. Mais plus du tout. Ça a été terminé. Il a arrêté sa carrière là-dessus parce que il a eu trop peur. Et est-ce que t'es dans cette situation-là où tu vas réussir à surmonter cette affaire?
Alors tu le vois pas, mais il a un petit sourire avant de te répondre, Mathieu.
Moi j'ai qu'une envie, c'est de remonter dessus. Ah, j'ai pas eu peur, honnêtement.
T'as jamais eu peur au moment où tu chavires, au moment où le temps que les secours arrivent, le temps que vous soyez ramené aussi.
T'as pas peur que ça va trop vite ou t'as pas peur parce que t'as confiance en ton équipe? Un peu des deux peut-être.
T'as pas peur parce que ça va trop vite surtout.
T'as pas le temps de réfléchir.
Comme souvent dans ces sports, tous les trucs un peu extrêmes que tu fais, t'as éventuellement peur après, mais sur le moment. On est complètement en réflexe, donc tu peux pas, t'as pas le temps d'avoir peur. Et après, ouais, les questions qui restent, c'est du coup comment je vais me sentir la veille d'une course. Parce que aller naviguer, on a déjà refait une navigation sur un bateau du même type là, il y a quelques semaines, pour emmener des partenaires, une organisation avec deux bateaux. Donc on a fait une petite nav avec JB sur le bateau, et c'était quand même, je sentais qu'il y avait quand même un peu d'émotion dans le truc. Et on dit souvent qu'il faut remonter sur le cheval, mais malheureusement, nous, le cheval, quelques mois à le réparer.
Il est à l'écurie, ouais.
Donc après, on va naviguer sur d'autres plus petits bateaux, je vais essayer de bosser le truc.
Ça va être un vrai travail. Tu es en train d'expliquer, ça va être un vrai travail pour te remettre dans le truc normal, quoi.
En fait, aller d'un point A à un point B, c'est pas forcément si dur avec ces bateaux. Ce qui est dur, c'est d'aller plus vite que les autres, quoi. Et c'est toute la notion de curseur, où tu mets le curseur. Parfois, il faut laisser les autres partir parce que tu sais qu'ils vont trop vite. Néanmoins, si tu les laisses partir trop loin, t'arriveras plus à les rattraper. Donc, tout le jeu, il est là-dedans, et c'est de savoir la route de Rome. Je vais y aller. Je suis assez confiant sur le fait que j'y aille. Sauf si je me sens pas être la bonne personne la veille, je serais capable de le dire, je pense. Mais
qu'est-ce qui fait la différence entre ces bateaux-là et les autres? Bon, les monocoques, ceux qui font par exemple le Vendée Globe, on sait c'est une seule coque. On voit les ultimes, Coville en ce moment qui est en train d'essayer de battre le record, le Jules Verne. Là, c'est le même genre de bateau que toi, mais encore plus gros, encore plus puissant. Ouais. Et on a l'impression que c'est vos bateaux, cette classe-là, qui est la plus dangereuse. Pourquoi?
C'est très bien analysé. Pourquoi
il est fort, ce Christophe.
Ouais.
Spécialiste de voile. C'est surtout sa première bonne intervention de la journée.
Oh. 11h43, il était temps en même temps.
Ouais, il me restait 17 minutes.
La grosse différence avec un monocoque, c'est qu'il n'y a pas de quille. La quille, c'est le machin en plomb qui empêche un bateau de chavirer. Nous, on n'en a pas, comme tous les multicoques.
Effectivement, du coup, c'est un petit peu plus risqué, a priori, déjà sur le papier.
C'est très puissant parce que très large. Mais par contre, une fois que tu es en surpuissance, ça devient vite dangereux. Et la grosse différence avec les ultimes, déjà, ils sont deux fois plus longs que nous. Donc nous, on a des bateaux de 15,5 mètres, ils ont des bateaux qui font 32 mètres. Et ils volent.
Oui, c'est vrai, avec les au-dessus foils, de l'eau.
En fait, ça les affranchit de beaucoup de contraintes. Et par exemple, ils ne chavirent plus par l'avant. Ce qui était ce que disait David, le risque numéro un sur nos bateaux. Quand tu plantes dans une vague.
Tu plantes dans une vague,
Et là, nous, c'est pas ce qui est arrivé cette nuit-là. Cette nuit-là, il n'y a pas beaucoup de mer, c'était vraiment des grosses rafales de vent qui te mettent à l'envers comme une crêpe. Et les ultimes sont paradoxalement plus safe parce qu'ils volent.
Ils sont plus chers aussi.
Ils sont beaucoup plus chers. Et nous, en fait, on tend à être une classe assez homogène sportivement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans notre classe. On se considère un peu comme des mobilettes, c'est des bateaux qui vont vraiment très très vite, très facilement. Et ce que je disais tout à l'heure, ce qui est dur, c'est d'aller plus vite que les autres. D'aller vite, on va tous vite, très rapidement. Et après, c'est de trouver ce curseur. Il y a des bateaux de 2009 et des bateaux de 2023 qui se valent quasiment en perf. Et c'est ça qui est hyper intéressant. On a un plateau de 11 bateaux. Et à la route du Rhum, je pense que tout le monde peut gagner.
Ouais. C'est un pilotage très pointu, quoi. Donc c'est sur le fil du rasoir en permanence, c'est ça?
Ouais, exactement. Et là, comme on l'a vu là, en 4 secondes, si t'as pas choqué la voile.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si tu pars sur la route du Rhum, tu vas devoir être alerte et concentré. H24, t'as pas de temps de repos, t'as pas de temps où tu peux te permettre de relâcher un petit peu la pression et peut-être laisser le bateau un petit peu plus en autonomie, si je puis dire.
Si, parce que tu peux pas.
Ouais.
Je dormir. Si tu te demandes de conduire 10 jours sur l'autoroute, il y a bien un moment où il faudra dormir. Mais c'est exactement cette comparaison-là. C'est sur une voiture lancée sur l'autoroute. Et
c'est à toi de choisir quand est-ce que le temps de repos le plus le moins non. risqué finalement à prendre?
Bah le moins risqué, le plus stratégique.
Ouais.
À quel moment si je lâche, je perds le moins, et à quel moment j'aurai pas le droit de lâcher? Paradoxalement, c'est souvent dans le petit temps quand il y a pas de vent. On se dit là, faut pas lâcher.
Il y a pétole.
Ah ouais.
Parce que là, les différences de vitesse entre les bateaux sont énormes, alors que dans le gros temps, on va tous vite. Et à la limite, si tu dors, donc en fait, il faut dormir quand le vent est stable.
C'est les temps de repos de combien? Comment tu peux te reposer?
Un quart d'heure, des 16 quart d'heure.
Voilà, c'est des micro siestes, ouais. C'est des
20 minutes.
Oh, ah oui.
Un truc comme 20 minutes max, je pense. Une demi-heure. Okay.
Mais plusieurs fois, beaucoup, très souvent.
Quand tu fais le Vendée, tu, à un moment, tu es obligé de dormir un peu plus quand même. Quand ça dure. Ouais.
Les bateaux sont moins chauds.
Les bateaux sont moins chauds, mais les océans sont peut-être un peu plus chauds. Quand tu es dans les mers du Sud, on en parlait tout à l'heure. Je sais pas si tu as déjà été dans ces contrées-là.
Non, mais je suis bien leur perf. En fait, eux, c'est le même jeu, hein, c'est de se dire à quel moment il faut que je m'accroche à un système météo, que je m'accroche à un concurrent. En fait, on a des enjeux stratégiques un peu tout le temps. Et on dirait comme ça que c'est un sport de course, mais en vérité, c'est un sport de
d'échecs.
Ah, ouais, c'est presque les échecs, je suis d'accord, c'est presque les échecs finalement.
En fait, la vitesse, si tu l'as pas, tu gagnes pas.
Ok.
Mais par contre, après, il faut aller au bon endroit. Et c'est vraiment un jeu d'échecs, il y a même un peu d'intox.
Il y a du trash talk.
Il y a du trash talk.
Vous voyez.
L'autre, ils prennent un porte-voix.
On en revient au débat initial, finalement.
Il faut courir quand même, hein, de temps en temps, quand il y en a un qui chavire.
Il y a de la solidarité quand même, alors.
Ça, c'est la constante.
Ouais. Bon, le départ pour la route du Rhum, c'est quand alors?
C'est le 1er novembre.
Ah oui, donc il y a énormément de temps, le bateau a le temps de se remettre sur pied là. Non, c'est pas si long que ça, c'est ça que t'es en train de me dire.
Il faut expliquer que quand un bateau se retourne, il perd son mât, c'est automatique. Hein, y a pas de...
Oh, il casse le mât.
Il casse le mât,
Pas perdu, mais il
en a. Donc vous l'avez récupéré?
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on en fait de ce mât cassé? On arrive à réparer ce genre de truc ou il faut complètement refondre?
On pourrait, mais là en fait, les cordages qui sont dans le mât ont déchiré le mât. Mmh. Il est déchiré, en plus d'être cassé net à un endroit, il est déchiré sur quasi la longueur. Donc il est mort.
Donc on repart complètement à zéro.
Et
avec
donc il le met devant chez lui pour montrer voilà le mât qu'on a cassé.
Voilà les dangers du métier que je fais aujourd'hui.
C'est une bosse. Un petit presse-livre.
C'est pas mal.
Merci beaucoup Mathieu d'être venu nous voir dans les grandes gueules du sport sur RMC. C'était très intéressant. Allez voir ce documentaire sur YouTube.
Le doc à regarder.
Le jour où tout a basculé. Ouais. Voilà, ça dure une vingtaine de minutes, pas plus. Vous pouvez aller voir ça. Ça se regarde très facilement et c'est très très intéressant justement pour comprendre un petit peu les risques aussi que vous prenez au quotidien. Merci beaucoup Mathieu.